je voudrais préciser le titre de mon exposé qui a subi un accident dans le programme, puisqu'il manque un nom. Hein. Le titre est donc « Temps et éternité » dans le livre 11 des Confessions, Augustin, Plotin, Porphyre et Saint Paul. Donc Saint Paul était là.
Alors,
Saint Paul est tombé. Voilà. Alors je vous ai distribué une page de bibliographie à laquelle je me référerai et dont je donnerai quelques commentaires et un dossier de texte que je crains fort de ne pas avoir le temps de lire intégralement. Mais je vous donnerai quelques indications de lecture. Mon exposé, évidemment, dont le titre est beaucoup trop ambitieux pour une intervention de 45 ou 50 minutes, sera en partie consacrée à poser un certain nombre de balises pour guider votre lecture. Alors, la célèbre analyse du temps menée par Augustin au livre 11 des Confessions, 11, 14, 17, 28, 38, est généralement située dans l'horizon de la doctrine exposée par Plotin dans le traité 45 sur l'éternité et le temps. Dans l'édition porphyrienne, il s'agit du traité Énéade 3, 7. Et la définition psychologique du temps comme distentio animi, l'expression apparaît en 11, 26, 33 la première fois, c'est distentio animi dans l'âme humaine singulière, est considérée généralement comme une transposition, voire une traduction, de la définition et du vocabulaire de Plotin, et notamment du mot diastasis. Alors, mon propos consistera d'une part à me faire l'écho des doutes qui ont pu surgir quant au rapport de traduction entre distentio et diastasis, et d'autre part, et là je serai beaucoup plus affirmatif, voudrais montrer que le traité 45 de Plotin n'est pas derrière le livre 11 des Confessions. Et pour les agrégatifs, je me permets, comment dirais-je, un caveat, faites attention dans vos dissertations, vos explications, parce qu'il est fort probable que le jury, dans le jury, il y aura des gens persuadés que le traité 45 de Plotin est bel et bien la source d'Augustin. Donc, prenez comme grano salis ce que je vous dirai, mais dont je suis persuadé. Alors, la comparaison entre les Confessions et le traité 45, qui est, avec la sentence 44 de Porphyre, le texte néoplatonicien qui chronologiquement doit être comparé à l'analyse d'Augustin, suggère certes un lien, sinon une dépendance, entre Augustin et ce que j'appellerais plus prudemment des doctrines néoplatoniciennes grecques. Augustin, comme Plotin et comme Porphyre, situe le temps authentique, le temps primordial, au niveau supraphysique qui est celui de l'âme, le temps n'étant plus lié primordialement au monde physique et au mouvement des corps. Et c'est ce que expriment de nombreuses analyses du livre 11. En cela, la rupture avec les conceptions de Platon, principalement dans le Timée, d'Aristote, surtout Physique 4 et aussi le Décaélo, et également avec les conceptions des philosophies hellénistiques, tant les épicuriens que les stoïciens, la rupture est consommée. Même si certaines analyses d'Augustin remontent elles-mêmes, et j'y reviendrai dans un instant, à la tradition philosophique grecque classique, à mon avis essentiellement Aristote, le traité du temps dans Physique 4, et aussi, ce qui est peut-être plus intéressant, les stoïciens. Mais il me semble extrêmement intéressant de souligner les différences entre le texte augustinien et le texte plotinien, et de faire ressortir ainsi la tonalité propre de l'un et de l'autre. La présentation des rapports entre éternité et temps est à cet égard très significative, et fait apparaître que le thème de l'éternité divine dans le livre 11 des Confessions ne dérive absolument pas de Plotin et n'a rien à voir, d'une certaine manière, avec la philosophie néoplatonicienne. Alors, je vais faire la chose suivante. Je voudrais tout d'abord vous proposer une présentation cavalière, malheureusement, de la doctrine plotinienne du temps, d'après le traité 45, pour faire comprendre notamment ce qu'il y a de différent, ce qu'il peut y avoir de commun également, avec Augustin. Puis, dans un deuxième temps, je voudrais faire avec vous un peu de philologie et m'intéresser à la question, faire un status questionis sur la question des sources d'Augustin, en examinant les rapports fondamentalement que l'on peut essayer de déceler entre son texte et une source porphyrienne, plus plausible que la source plotinienne, et également l'écho que l'on peut voir dans le livre 11 des Confessions avec les analyses d'Aristote, des stoïciens, et peut-être de la patristique grecque. Il y a un possible écho d'une analyse de Grégoire de Nice. Et ensuite, j'en viendrai à des problèmes d'interprétation générale de la doctrine d'Augustin, en posant, et là encore le terrain est miné, une question extrêmement difficile, qui est de savoir s'il y a ou s'il n'y a pas, et dans quelle mesure il y a une subjectivation partielle ou subjectivation radicale de la doctrine augustinienne du temps. Qu'en est-il du rapport entre le temps de l'âme et le temps de la nature? Et je voudrais enfin vous faire un peu de doxographie et vous présenter quelques lignes d'interprétation qui ont pu être proposées. Alors tout d'abord Plotin. Le traité 45 de Plotin est un traité qui est extrêmement structuré. Vous avez 6 premiers chapitres qui sont consacrés à la doctrine de l'éternité, et le titre donné par Porphyre est Peri Aionos Kai Chronou, hein, sur l'éternité et sur le temps. Puis, les chapitres 7 à 10 sont un intermède dialectique dans lequel Plotin critique vigoureusement les doctrines stoïciennes et aristotéliciennes du temps, et accessoirement la doctrine épicurienne, conformément à la méthode critique de la dialectique issue de la tradition péripatéticienne. Et vous avez une dernière unité très identifiable, qui est un traité du temps. Ce qui est fondamental dans le traité 45 de Plotin, et ce que l'on ne trouve pas dans le livre 11 des Confessions, c'est, je dirais, une démarche qui relève de l'exemplarisme. C'est-à-dire que Plotin, analysant le texte du Timée, et notamment la formule selon laquelle le temps est image mobile de l'éternité, pose un principe épistémologique dans le chapitre 1 du traité 45, en disant que la connaissance de l'essence de l'éternité doit précéder la connaissance de l'essence du temps et la définition du temps, la deuxième se déduisant de la première. Une fois que l'on aura compris ce qu'est l'éternité, l'on pourra en déduire ce qu'est le temps. Ce qui fait qu'il y a une relation extrêmement étroite entre les propositions relatives à l'éternité et les propositions relatives au temps. Et ce qui les lie, c'est notamment l'emploi d'un concept extrêmement intéressant, qui est le concept de vie, Zoé. Alors, le traité plotinien est le 45e traité dans l'ordre d'écriture de Plotin, et c'est une évidence, il succède au traité 42-44. Or, les traités 42-44 de Plotin, et là nous allons un peu reparler des catégories, sont consacrés à une critique en règle de la doctrine aristotélicienne des catégories, de la doctrine stoïcienne des catégories et à la proposition par Plotin d'une doctrine spécifique des catégories. Mais les catégories plotiniennes représentent un cas extrêmement intéressant dans l'histoire de la philosophie. C'est une impasse. C'est une doctrine qui n'aura absolument aucune importance dans l'histoire de la philosophie et qui est citée plutôt comme une sorte de curiosité par les commentateurs tardo-antiques. Cette critique des doctrines antérieures des catégories, et notamment de la doctrine aristotélicienne, consiste, je vais résumer les choses à très gros traits, consiste d'une part à nier la nature de genre des catégories aristotéliciennes. Il ne peut pas y avoir de genre là où il y a de l'antérieur et du postérieur. Or, l'existence, la position des deux niveaux de l'intelligible et du sensible introduit une relation d'antérieur et de postérieur et fait qu'il ne peut pas y avoir d'univocité, par exemple, de la catégorie de l'ousia, de la catégorie de la quantité. La deuxième grande critique est celle de l'illégitimité des catégories à dire l'intelligible. Et la critique de Plotin est corrélativement associée, si vous voulez, à un acte extrêmement important dans l'histoire de la philosophie, qui est, je dirais, la promotion théologique des genres suprêmes de Platon dans le sophiste. Hein, les mégistagénés, les grands genres du sophiste, l'être, le mouvement, le repos, le même et l'autre, qui n'ont pas une telle nature dans le texte authentique de Platon, dirais-je, sont interprétés par Plotin comme exprimant la texture, je dirais, le véritable ensemble de catégories, si, mais le mot n'est pas employé, de l'intelligible. Alors nous avons la situation suivante. Finalement, pour Plotin, les catégories d'Aristote peuvent avoir une légitimité moyennant certains aménagements pour décrire le sensible, mais pour l'intelligible, c'est-à-dire pour la deuxième, ce qu'on appelle improprement la deuxième hypostase, l'intellect divin qu'il assimile au dieu Chronos, ce sont les genres platoniciens. Dans la théologie de Plotin, après l'un, vous avez ce deuxième plan de la réalité qui réalise l'identité parfaite de l'intellect divin et du monde intelligible des formes, Plotin proposant en quelque sorte une interprétation simultanée de l'intellect aristotélicien de métaphysique lambda et du principe épistémologique du De Anima, selon lequel dans le cas des réalités immatérielles, il y a identité de la science et de son objet. Autrement dit, vous avez une structure, le dieu Chronos, qui est l'intellect divin, réalise l'unité de la pensée et de son objet. Unité de la pensée et de son objet. Structure duelle. Vous avez une structure, je dirais, triadique, et je renvoie ici un article célèbre de Pierre Hadot, c'est que à partir de suggestions de Platon dans le Sophiste, c'est la fameuse triade de l'être, de la vie et de la pensée qui structure l'intellect divin. Et ce qui nous intéresse plus particulièrement ce soir, vous avez les cinq genres du sophiste. Mais l'intellect divin est fondamentalement unitaire. Il correspond à l'un de la deuxième hypothèse du Parménide et toute multiplicité en lui doit être résorbée, doit être synthétisée dans un mode d'unité. C'est ce qui se passe pour les genres, les grands genres. Les cinq grands genres font l'objet en quelque sorte d'une, ce que j'appellerais une synthèse unitive, et de ces cinq genres, l'unité, la puissance d'intégration de l'intellect divin extrait en quelque sorte ce que Plotin appelle une vie unique, mia zoe, qui pour lui est l'aion, l'éternité. Et il reprend le terme déjà employé avant lui par Platon, mais aussi Aristote. En réactivant d'ailleurs, ce qui est un point de sémantique extrêmement intéressant, la très vieille signification du mot aion en grec, puisque aion en grec, c'est un mot qui est exactement de la même racine que le iuvenis latin, signifie la force vitale. Hein, la force vitale, la durée de vie d'un être jeune parvenu en quelque sorte à la plénitude de la maturité. C'est le schéma qui régit la théorie plotinienne de l'éternité et qui, mutatis mutandis, servira d'élément séminal pour le développement de toutes les théories néoplatoniciennes de l'éternité. De l'éternité ainsi définie, Plotin déduit selon la logique de l'exemplarisme, une définition du temps. Et c'est le texte que je vais lire, que je vous ai distribué en traduction, et je vais vous en lire quelques lignes, que j'emprunte à une bonne traduction, très facilement accessible, dans la collection Garnier-Flammarion. Si l'on disait que le temps est... Alors, vous allez voir que toutes les caractéristiques du temps sont déduites des caractéristiques définitionnelles de l'éternité. Si l'on disait que le temps est la vie de l'âme, que son mouvement fait passer d'un état à un autre, ne dirait-on pas quelque chose de sensé? Car si l'éternité est une vie en repos, et le mot grec employé est « zoé », qui demeure dans l'identité, immuable et d'emblée illimitée, texte, passage fondamental pour l'histoire de la notion d'infini. C'est une vie qui est « aidé apeiros », d'emblée illimitée. Et si le temps doit être pour sa part une image de l'éternité, Platon, tout comme cet univers est une image de celui de là-bas, alors, au lieu d'être la vie de là-bas, il faut dire que le temps est une autre vie, comme homonyme de celle-là. Le temps est la vie de cette puissance de l'âme. Il n'est pas le mouvement de l'intellection, mais celui d'une certaine partie de l'âme. Il n'est pas l'identité, l'immuabilité et ce qui demeure en soi, mais ce qui ne demeure pas dans l'identité et dont les actes sont toujours différents. Et il n'est pas quelque chose d'inétendu, le mot le plus important est adiastatos, hein, édin. Ce sont des traits que l'on va retrouver dans les quelques passages où, très rares et très frustrants d'une certaine manière, où Augustin tente de définir l'éternité divine dans le livre 11, n'est-ce pas? Le caractère inétendu est un trait qui réapparaît. Le temps donc n'est pas quelque chose d'inétendu et d'un, mais une image de l'unité, l'unité qui consiste dans la continuité. Il n'est pas d'emblée illimité et total, mais il tend toujours et sans limite vers le moment ultérieur. Il n'est pas un tout qui existe d'un bloc, atron, mais un tout qui existera partie par partie et dont la totalisation sera toujours à venir. De cette façon, en effet, c'est-à-dire s'il désire être dans l'être en acquérant sans cesse de nouvelles déterminations, le temps imitera bien ce qui est d'emblée total, d'un bloc et d'emblée illimité, car son être ainsi imitera bien l'être de l'intelligible. Alors, il faudrait pouvoir regarder à la loupe, évidemment, ce texte, mais l'idée fondamentale est la suivante, et le texte est rythmé en grec par anti plus le génitif, hein, à la place de tel ou tel caractère de l'éternité, vous avez tel ou tel caractère du temps. Tous les caractères de l'éternité qui sont de l'ordre de l'unité, de l'inétendue, de la totalité, du rassemblement, se retrouvent sous un mode étendu, je dirais diastatos en grec, pour décrire le temps. Le deuxième élément de l'analyse de Plotin consiste à décrire le lien entre le temps et l'âme, entre l'éternité et ce qu'il nomme l'être, to-on, ou est, ou sia, et qui pour lui coïncide avec l'intellect divin. Et ce n'est pas hors de l'âme qu'il faut saisir le temps, non plus qu'il ne faut, là-bas, saisir l'éternité hors de l'être. Il y a, si vous voulez, un schéma extrêmement simple, c'est que le temps est véritablement coextensif à l'âme, de même que l'éternité est coextensive à l'être. Mais pour lui, l'être, c'est l'hypostase divine qui coïncide avec le monde intelligible total. Le temps n'est pas un accompagnement de l'âme ni ne lui est postérieur, pas plus que l'éternité ne l'est là-bas. Il faut le concevoir au contraire comme ce qui se manifeste dans l'âme elle-même, comme ce qui est en elle et qui lui appartient, ainsi qu'il en va pour l'éternité. Donc, cette immanence de l'éternité à l'être divin, du temps à l'âme, est le cœur de la doctrine plotinienne. Alors, je vais être obligé d'aller vite, évidemment, mais vous voyez immédiatement la différence qu'il y a avec le dispositif qui est celui d'Augustin dans le livre 11. Hein. Et les deux grandes différences sont les suivantes. D'une part, le rapport de paradigme à image est absolument recteur dans l'analyse de Plotin, et d'autre part, l'âme qui est le lieu de l'apparition du temps, l'âme dont Plotin décrit l'autotemporalisation dans le chapitre 11 du traité 45, est, car il ne le précise jamais, à la fois une âme universelle, je dirais une âme hypostase, une âme hypercosmique, l'âme du monde et l'âme de chacun des êtres humains que nous sommes. C'est-à-dire qu'il y a une homologie absolue entre ces trois niveaux d'âme. Une âme, pour parler un peu comme Proclus, une âme divine hypercosmique, l'âme du monde qui anime véritablement le corps du monde considéré comme un vivant, et d'autre part l'âme de chacun d'entre nous. Alors là, évidemment, une autre différence fondamentale apparaît avec Augustin, hein, puisque le livre 11 ne nous parle que d'âmes particulières, hein, d'âmes humaines. Je reviendrai dans un instant sur l'animus universel dont il est question à la fin du livre 11. Alors je dirais que négativement, et c'est pourquoi je demande aux agrégatifs d'être très prudents, négativement, m'étant livré à un exercice extrêmement simple qui consiste à comparer mot à mot le traité 45 de Plotin et le livre 11 des Confessions, on ne trouve pas le moindre contact textuel, le moindre contact philologique entre les deux textes. Et les seuls mots qui prêtent évidemment à discussion sont l'emploi de diastasis en grec et de distentio en latin. Voilà. Alors, si vous lisez, par ailleurs, j'ai la plus grande admiration pour le volume 14 de la BA, mais si vous lisez les notes de la BA, vous verrez que vous avez tout un dossier plotinien et que l'on présente comme une évidence la dépendance d'Augustin à l'égard de Plotin. Bon, ça c'est la pars destruens. Alors après c'est plus difficile. Je pense donc que Augustin n'a pas pu lire Plotin, mais la question se pose, et elle a été posée par Goulven Madec, de savoir si Augustin n'aurait pas plutôt lu Porphyre. Et ça nous renvoie à un dossier qui a été déjà évoqué deux fois aujourd'hui, qui est le dossier de l'aide-mémoire, ce qu'en grec on appellerait un upomnema, hein, qui correspond au mot commonitorium, rassemblé par Augustin en vue de la préparation d'un troisième livre des soliloques, c'est-à-dire le De Immortalitate Animae, donc sans doute écrit à Milan en 387. Alors, il y a dans ce livre, et j'ai donné dans mon exemplier la photocopie de la page de l'édition Wolfscale de 1977. Il y a dans ce De Immortalitate Animae, en 3.3, un passage très troublant, qui est le suivant, et que l'on a rapproché, évidemment, de la définition très entre guillemets, du temps comme distentio animi, et de la théorie des trois actes intentionnels de l'âme, qui est au cœur du livre 11. Alors je vous lis une traduction, qui est la traduction de Goulven Madec. « Tout agent qui meut le corps par le temps, même s'il tente à une seule fin, ne peut pourtant pas tout faire en un instant et ne peut pas ne pas faire plusieurs opérations. Car il ne peut, quels que soient ses efforts, faire que soit parfaitement un ce qui peut être coupé en partie, ou qu'un corps soit sans partie, ou qu'un temps soit sans intervalle de durée, ou même que la syllabe la plus brève soit prononcée sans qu'on entende la fin que lorsqu'on n'entend plus le début. De plus, pareille action réclame une attente pour s'accomplir et un souvenir pour être saisi autant que se peut. Et expectatio futurarum rerum est, praeteritarum vero memoria, at intentio ad agendum praesentis est temporis. Et l'attente concerne le futur, le souvenir le passé, mais l'attention dans l'action concerne le temps présent par lequel le futur transite vers le passé. Autrement dit, au moment où Augustin écrit le De immortalitate animae, l'élément central de l'analyse du temps dans le livre 11 des Confessions est déjà formulé dans les mêmes termes. Et ce n'est donc absolument pas une création d'Augustin, je dirais, au moment où il écrit le livre 11 des Confessions. Alors, intervient à ce moment-là le dossier dont on a déjà commencé à parler ce matin, et qui est un dossier, je dirais, comme une fusée à trois niveaux. Parce que vous savez tout d'abord, le livre de Heinrich Dörrier, publié en 1959, sur les Simmictas et Themata de Porphyre. Puis, vous avez l'article de Jean Pépin, publié en 1964 dans la Revue des études anciennes, intitulé « Une nouvelle source de Saint-Augustin, le Zetema de Porphyre sur l'union de l'âme et du corps ». Et ensuite, vous avez de multiples citations et développement de Gulvenmadec dans de nombreuses parties de son œuvre à partir du travail de Pépin. Ce sont les trois niveaux, et comme je l'ai déjà dit, est sous presse actuellement une reprise critique de l'ensemble de ce dossier par Christian Tornao en introduction à la nouvelle traduction commentée qu'il prépare du De immortalitate animae. Donc du point de vue bibliographique, c'est assez complexe. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, dans un premier temps, Heinrich Dörrier a essayé de rapporter le De immortalitate animae à un zetema de Porphyre sur l'immortalité de l'âme. Sur la base de cette première analyse, Jean Pépin a repris dossier en essayant d'étendre, si vous voulez, la base de la comparaison, et il a produit un certain nombre de parallèles supplémentaires entre le De immortalitate animae d'Augustin et un autre zetema de Porphyre reconstitué par Heinrich Dörrier à partir du De natura hominis de Nemesius, De solutiones ad cosroem de Priscien de Lydie. Et sur cette base, Madec a considéré que le De immortalitate animae serait pour l'essentiel issu d'une compilation des Simmictas Zetemata, et, attention, non pas du Zetema sur l'immortalité de l'âme, mais du Zetema sur l'union de l'âme et du corps. Alors, je ne vais pas vous ennuyer davantage avec ce point de philologie, mais vous voyez l'intérêt de ces différents travaux, c'est que l'hypothèse surgit selon laquelle, si l'essentiel du De immortalitate animae est issu d'un travail, au fond, de compilation d'Augustin à partir d'un dossier porphyrien, la doctrine de la triple intentionnalité de l'âme pourrait provenir de Porphyre. Et les choses s'éclairent d'une certaine manière. On comprend bien l'allure néoplatonicienne de la doctrine, on s'explique l'absence de Plotin, mais d'autres difficultés surgissent. C'est que nous avons dans le corpus, personne ne semble vraiment s'en être avisé, c'est qu'il y a dans le corpus de Porphyre un texte explicite sur la doctrine du temps, qui est la sentence 44, dans laquelle, qui a été brillamment traduite et commentée par nos collègues de l'UPR 76 du CNRS, avec une annotation de Jean Pépin, et lequel Jean Pépin ne fait absolument aucune allusion à la théorie supposée être celle de Porphyre dans la base, en quelque sorte, du De immortalitate animae. Donc, les choses se compliquent. On sait que Porphyre reformule en quelque sorte la doctrine orthodoxe, entre guillemets, du temps selon le néoplatonisme. Porphyre semble bien formaliser la pensée de Plotin. Alors, vous voyez tout de suite les problèmes d'interprétation qui se posent. Hein. Est-ce que l'absence de parallèle qu'il peut y avoir entre, disons, la doctrine intentionnelle et la sentence 44 s'explique par une raison littéraire, c'est-à-dire que Porphyre a fait simplement un travail de mise en forme de Plotin sans donner véritablement d'opinion personnelle, ou bien est-ce qu'il faut renoncer à voir Porphyre derrière le texte d'Augustin? Alors, une autre idée m'a traversé l'esprit. C'est que, sans qu'on puisse préciser les intermédiaires entre Plotin et Augustin, c'est que vous avez dans le texte de Plotin des images, des métaphores, des éléments de vocabulaire de nature, je dirais, psychologique. Plotin attribue à la dimension du futur, aussi bien dans l'âme universelle que dans les âmes humaines, une fonction constitutive de la temporalité. Il y a de la temporalité dès qu'il y a du désir, dès qu'il y a une aspiration vers le futur, et en quelque sorte, la temporalité est la fissure par laquelle, dans l'âme inquiète qui abandonne la tranquillité de la contemplation des intelligibles, surgit le tout de la temporalité. Donc la dimension du futur est absolument constitutive. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans le texte de Plotin, nous avons, si vous voulez, une palette de 4 ou 5 mots, de 4 ou 5 thèmes, qui sont comme l'universalisation de notions très anciennes dans l'éthique grecque. Alors, la notion de désir. Hein. Les réalités éternelles sont exemptes du désir du futur, Ephesis tou melontos, qui caractérise les réalités temporelles. Vous avez la notion de curiosité, qui est extrêmement intéressante, qui remonte à la République de Platon, qui a donné lieu à un traité de Plutarque, et Plotin nous explique que l'âme qui s'autotemporalise est une fucis polypragmone, hein, une nature curieuse, une nature affairée. Vous avez le thème de l'intranquillité. Hein, la puissance de l'âme qui s'autotemporalise est une puissance inquiète, dynamis, hook, et succos. Et puis, ce qui est peut-être plus intéressant encore, c'est de voir apparaître le très vieux thème grec de la pléonexie. Les réalités temporelles, pour combler leur fragilité ontologique, sont toujours en train de chercher à acquérir plus d'être. Donc, avoir plus que ce, chercher, désirer plus que ce que l'on possède présentement, c'est la définition même de la pléonexie, et vous savez que l'analyse remonte très très loin, c'est le fameux dialogue des Athéniens et des Méliens chez Thucydide. Alors, on peut se demander si la présence dans le texte de Plotin de métaphores d'ordre psychologique transposées à la description de l'âme principielle n'a pas joué un rôle, si vous voulez, dans la production de la doctrine que l'on voit dès le De Immortalitate Animae. Mais je dis ça avec deux ou trois points de d'interrogation, parce que, évidemment, c'est une hypothèse que l'on peut défendre, mais que l'on ne peut absolument pas prouver. Donc, Plotin n'a joué aucun rôle direct dans l'élaboration du texte d'Augustin, et en ce qui concerne Porphyre, nous avons une hypothèse qui a été brillamment présentée par Goulven Madec, mais qui elle-même a une sorte de faiblesse philologique, si vous voulez. Je crois qu'on ne peut pas aller beaucoup plus loin. Il y a d'autres candidats intéressants. Alors Aristote, tout d'abord. Mais là encore, un contact direct d'Augustin à Aristote peut difficilement être prouvé. Il n'empêche que une relecture du livre 4 de la physique, notamment des chapitres 10 et 11, et passages très célèbres dans lesquels Aristote met en doute l'existence même du temps, hein, le temps n'existe absolument pas, hein, et holos huc estin, ou il n'existe qu'à peine et de façon obscure, molis kai amudros, l'idée selon laquelle le passé n'est plus, le futur n'est pas encore, le temps est composé de parties dénuées d'existence, ne semble pas avoir lui-même d'existence, l'idée selon laquelle l'instant présent n'est pas une partie du temps, mais est simplement une limite pérasse du temps, toutes ces analyses bien connues d'Aristote peuvent assez facilement être mises en parallèle avec certaines des analyses du livre 11. Hein. Philosophiquement, en tout cas, et en s'en tenant à une simple méthode de comparaison, hein, sans rien affirmer du point de vue généalogique, si vous voulez, c'est intéressant. Il y a un autre dossier qui mérite d'être présenté et qui, lui, pose la question que nous avons évoquée ce matin de l'accès d'Augustin à la connaissance du stoïcisme. Hein. C'est le fait, quand même, que vous avez dans le livre 11, d'une part, des affirmations sur le caractère ponctuel, labile, inexistant du présent, et d'autre part, la position, je dirais, d'un présent comme champ minimal de conscience. Et cette distinction de deux types de présent ressemble fort, mais là encore, s'il y a un air de famille, mais qu'est-ce que l'on peut dire de plus, à des affirmations stoïciennes. Alors, vous avez notamment deux ensembles de textes bien connus, c'est Chrysippe d'un côté et Posidonius de l'autre. Chrysippe distinguait entre le présent au sens rigoureux, kat apartismon, et un présent, alors kataplatos, et kataplatos en grec peut signifier soit sémantiquement au sens large, soit d'un point de vue plus physique, considéré selon une certaine étendue. Pour Chrysippe, aucun temps n'est présent kat apartismon en raison de sa de la divisibilité à l'infini des continus. Là, les stoïciens reprenaient une analyse aristotélicienne absorbée par eux, mais on peut exprimer, on peut dire le présent peut être dit legestai kataplatos. Un texte parallèle de Posidonius, qui est peut-être en léger décalage par rapport au témoignage que l'on a sur la pensée de Chrysippe, précise que le temps au sens large est défini et délimité par la perception humaine, relativement à la perception, c'est-à-dire à la perception humaine, pros aistésine. Et c'est un présent défini comme une durée sensible minimale. Donc c'est une autre piste, si vous voulez. La référence est Posidonius, fragment 98. Mais là encore, d'après les lectures que j'ai pu faire, j'ai constaté que les spécialistes d'Augustin sont extrêmement prudents quant à la présence de l'information stoïcienne dans dans nombre de doctrines augustiniennes. On a cherché dans une autre direction, du côté des sources patristiques grecques. Et un savant, c'est le deuxième titre que je vous ai indiqué, nommé Callahan, a d'une part exploré une mauvaise piste et d'autre part exploré une piste plus intéressante. La mauvaise piste est celle qui a essayé de rapporter Augustin à Basile de Césarée. On a, vous le savez, dans le livre 11, une déclaration, une analyse qui vise à dissocier le temps des réalités planétaires et cosmologiques. Et cet auteur, Callahan, a essayé de montrer qu'Augustin viserait un homme larien qu'il aurait connu grâce à Basile de Césarée, tout simplement parce que dans le contre-nom, on a une invective contre un homme qui dit « Le temps est un indéfinissable mouvement des astres, c'est-à-dire du soleil, de la lune et des autres astres. » Ça, c'est très banal et on ne peut rien en tirer. En revanche, dans le contre-nom encore de Grégoire de Nice, on a un texte qui est beaucoup plus intéressant et que je trouve énigmatique du point de vue de la langue. Dans ce texte, Grégoire de Nice oppose les réalités en devenir nécessairement créées dans un cadre spatio-temporel et la nature éternelle. le mot grec employé est aidios, qui est nécessaire, qui est au-delà du temps et du lieu. Bien. Grégoire explique que cette nature éternelle est stable en elle-même, qu'elle est exempte de la division, elle n'est pas sundiai roumene, introduite par le passé et le futur, car il n'y a rien en dehors d'elle dont la venue est le passage, et il emploie le verbe grec parodein, qui correspond très exactement à transire en latin. Car la venue est le passage, il n'y a rien dans l'éternité dont la venue et le passage introduiraient une distinction entre passé et futur. Dans cette nature éternelle, donc, rien ne passe, il n'y a ni passé ni futur, car c'est dans la création, explique Grégoire, que l'on rencontre ces affections, parce que la vie se scinde par la division du temps en espérance et en mémoire. Pros elpida kai mnemen. Et lorsqu'il oppose à cet éternel présent le passé et le futur, Grégoire emploie pour désigner le futur un étrange participe substantivé en grec qui est prosdokomenon, prosdokomenon du verbe dokao qui veut dire attendre, hein, expectare. Et littéralement, ça veut dire ce qui est attendu, to prosdokomenon. Alors, il y a une ressemblance évidente avec l'analyse d'Augustin. Maintenant, qu'est-ce que l'on peut faire de cette ressemblance? Est-ce qu'on peut faire le saut de la ressemblance à l'origine? Là encore, il faut être très prudent. Le rapprochement est d'autant plus intéressant que le verbe parodein utilisé par Grégoire de Nice, qui est un verbe rare, ah, c'est pas de chance, ou c'est beaucoup de chance, est connu de Porphyre. On le trouve dans les fragments de Porphyre, donc il appartient au vocabulaire de Porphyre. Alors, est-ce que ça peut être une source du transiré qui est si important dans l'analyse d'Augustin? Point d'interrogation, double, triple point d'interrogation, on ne peut pas dire beaucoup plus. Alors, me direz-vous, tout ceci est tout à fait aporétique. Mais il y a, dans le livre 11, deux textes qui, en revanche, permettent de poser la question de la dépendance d'Augustin par rapport à des doctrines néoplatoniciennes. Alors je ne dis pas plotinienne, mais néoplatonicienne. Le premier texte, qui est particulièrement intéressant, se trouve dans la BA, c'est page 340-341, donc Confession 11, 30, 40, où Augustin affirme l'éternité de Dieu, éternel créateur de tous les temps, et mentionne de manière très énigmatique la possibilité d'une créature, une créature de Dieu, au-dessus des temps, supra tempora. La phrase est la suivante. Et intelligente omnia tempora aeternum creatorem omnium temporum, neque ulla tempora tibi esse coeterna, neculam creaturam, etiam si est aliqua supra tempora. Traduction, qu'ils comprennent que tu es avant tous les temps l'éternel créateur de tous les temps, et qu'aucun des temps ne t'est coéternel, non plus qu'aucune créature, même s'il en est quelqu'une au-dessus des temps. Alors, le livre 11 doit s'éclairer sur ce point par la lecture des livres suivants, hein, puisque les livres 11 à 13 constituent un traité exégétique sur la Genèse, et la lecture notamment du livre 12 des Confessions montre qu'il s'agit de cette réalité désignée très fréquemment par Augustin, à partir d'une expression du psaume 113, verset 3, comme le « kaelum kaeli », hein, le ciel du ciel, le « kaelum kaeli », qui intervient dans l'exégèse pour savoir ce qu'est ce ciel créé par Dieu, dans sa différence avec le firmament. Et Jean Pépin, encore lui, a écrit une magnifique étude dans le bulletin d'Ucange en 1953, recherche sur le sens et les origines de l'expression « kaelum kaeli » dans le livre 12 des Confessions de saint Augustin. Donc là, nous tenons un point de contact objectif, je dirais, avec la tradition néoplatonicienne. Alors, en deux mots, le Kailoum Kaili a, dans l'ensemble de l'œuvre d'Augustin, et notamment dans le déploiement de ses travaux d'exégèse sur le livre de la Genèse, une longue histoire. Mais Pépin a bien montré qu'il y a un noyau de signification, un noyau doctrinal dans l'œuvre d'Augustin qui est le suivant. Le Kailoum Kaili, qu'il ne faut pas confondre avec les anges, dont l'éternité est sujette à caution. Hein. Le Kailoum Kaili est un véritable collège d'entités spirituelles qui présente un aspect extrêmement intéressant, c'est que se réalise entre eux l'identité de l'intellect et de l'objet de l'intellect. L'identité de l'intellect et de l'intelligible. Et là, nous reconnaissons un point extrêmement, un invariant de la philosophie néoplatonicienne. Hein, l'idée qu'il y a identité entre l'intellect et son objet. Alors le deuxième élément que l'on a pu rapporter au néoplatonisme dans le livre 11 des Confessions est extrêmement difficile à interpréter. Il se trouve, c'est dans le même passage, un peu plus loin, en 11, 31, 41. Il s'agit d'un passage tout à fait énigmatique, dans lequel Augustin, pour faire ressortir par contraste la nature spécifique de l'éternité divine, propose une sorte de fiction, c'est-à-dire un animus universel structuré exactement comme l'animus distendu de l'homme, mais ayant une extension maximale. Voici le texte. S'il est un esprit doué d'une telle ampleur de science ou de préscience que toutes les choses passées et futures soient aussi bien connues de lui que les deux moi un seul champ bien connu, je reviendrai rapidement sur ce point, cet esprit provoque un excès d'admiration et une stupeur qui va jusqu'à l'horreur sacrée. Car ainsi rien ne lui échappe de ce qui s'est accompli, rien de ce qui reste pour les siècles à venir, pas plus que ne m'échappe dans le chant que je suis en train de chanter, quelles choses et combien de choses s'en sont allées depuis le début, quelles choses et combien de choses en restent jusqu'à la fin. Mais loin de moi la pensée que toi, le créateur de l'univers, le créateur des âmes et des corps, loin de moi la pensée que tu connaisses ainsi toutes les choses futures et passées. Toi, tu connais beaucoup, beaucoup plus merveilleusement, beaucoup plus mystérieusement. Oui, ce n'est pas comme pour celui qui chante un air connu ou entend un chant connu, et chez qui l'attente des sons futurs et la mémoire des sons passés font varier les impressions et provoquent la distension des sens, ce n'est pas ainsi que les choses se passent pour toi immuablement éternelles, c'est-à-dire vraiment éternelles, créateur des intelligences. Alors, ce texte a donné lieu à un débat interprétatif, avec, si vous voulez, deux aspects. Le premier aspect est un aspect en quelque sorte, historique. Est-ce que Augustin, à travers l'hypothèse de cet animus de science et préscience universelle, continue de souscrire à la thèse platonicienne et néoplatonicienne de l'âme du monde? Il s'explique sur la question de son adhésion à l'âme du monde dans les Retractationes, en 1, 11, 4, je n'ai pas le temps de vous présenter le dossier, et Augustin a une position très, au fond, très ambiguë, même dans les Retractationes. Hein. Il dit clairement qu'il a adhéré à la doctrine néoplatonicienne de l'âme du monde, qu'il n'y adhère plus, mais que finalement, on ne sait pas. Hein. La seule chose, il ne faut pas considérer que le monde soit un dieu. Mais à condition de ne pas considérer que le monde soit un dieu, il ne nous dit pas qu'il renonce à l'hypothèse de l'âme du monde. Donc la question reste en quelque sorte en suspens. Je remarque simplement que dans le texte que je viens de vous lire, il n'est absolument aucunement question d'une fonction animatrice de cet animus par rapport au monde, par rapport au cosmos, et que la ligne argumentative est une ligne, je dirais, cognitive. Bon. Le deuxième enjeu est le suivant. Et là, je vous renvoie à l'article qui figure au bas de ma bibliographie d'un auteur Roland Teske, qui a écrit dans la revue Augustinian Studies en 1983 un article extrêmement intéressant intitulé « The World, Soul and Time in St. Augustine ». Parce que cet auteur Teske a d'abord défendu l'idée que Augustin continue de souscrire à la thèse au fond plotinienne de l'âme du monde, et c'est là le deuxième aspect plus proprement philosophique, plotinise en quelque sorte Augustin en ayant à l'esprit un enjeu extrêmement important, c'est que cela permet de régler une aporie, qui est une aporie qui traîne dans toute la tradition de lecture d'Augustin depuis le Moyen-Âge, qui est de savoir si la décosmologisation du temps s'est accompagnée d'une subjectivation radicale, avec l'affirmation selon laquelle l'origine du temps serait proprement dans l'âme humaine, dans les âmes humaines singulières. Ce qui, vous le savez, a donné lieu à un texte très intéressant et très sarcastique de Bertrand Russell, qui a en quelque sorte poussé à l'extrême cette hypothèse. Alors, Teske, très justement, fait remarquer qu'on ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas un temps de la création, comme s'il n'y avait pas une mutatio rerum qui est affirmée par Augustin, notamment dans les livres 12 et 13 des Confessions. Et la question se pose de savoir comment établir la liaison, l'articulation entre le temps subjectif analysé dans le livre 11 des Confessions et d'autre part le temps cosmologique. Si bien que le retour à une position plotinienne permet de régler la question. À partir de ce moment-là, on pose effectivement une âme du monde qui a une structure temporelle et une structure qui permet à la fois de rendre compte de la temporalité du cosmos et de la temporalité des âmes humaines singulières. C'est au fond le schéma que l'on trouve dans les chapitres 11 à 13 du traité 45 de Plotin. Alors, c'est évidemment une position qui est affaiblie par le fait que cet auteur confond abusivement l'allusion au caelum caeli, qui est supratemporel, et l'animus universel. Donc l'analyse, si vous voulez, l'article pêche du point de vue philologique, et d'autre part, même s'il met le doigt sur une question exégétique fondamentale, qui est celle de l'articulation entre tant objectif, tant cosmologique et tant subjectif, la solution qui consiste à une plotinisation d'Augustin se heurte évidemment à beaucoup d'objections philologiques. Mais il pose une excellente question. Alors, on pourrait, si on avait plus de temps, faire la doxographie, si vous voulez, des interprétations qui remontent à des débats médiévaux, et qui consiste à se demander s'il y a cette subjectivation radicale du temps. Alors je vous renvoie dans la bibliographie au gros et très impressionnant livre de Kurt Flasch, Was ist Zeit, publié en 1993, qui comporte notamment un exposé extrêmement long sur l'ensemble des exégèses médiévales de la doctrine augustinienne, mais aussi des exégèses modernes et contemporaines. Et Kurt Flasch défend l'idée selon laquelle il y aurait véritablement une subjectivation radicale du temps. Et il sert d'autorité à certains interprètes contemporains, marqués notamment par la tradition phénoménologique, notamment notre collègue Claude Romano, qui va véritablement affirmer qu'il y a une production de la temporalité par l'âme humaine singulière. Ce qui pose évidemment immédiatement deux questions. Si nous n'avons plus que des séries de temporalités en quelque sorte monadiques, séparées les unes des autres, comment penser un temps universel, le temps de l'histoire, le temps de la nature, le temps du monde. Donc on est entraîné dans des difficultés philosophiques énormes qui ont été bien exprimées par Bertrand Russell. Et la deuxième question est d'ordre théologique. Cela confère une certaine centralité à l'homme dans la création. Et ce n'est plus Dieu qui est le créateur du temps. Or cela contredit frontalement des affirmations explicites d'Augustin qu'il s'agit de repérer. Alors, je voudrais très rapidement, et là je me contenterai de propositions lapidaires, résumer ce que j'aurais pu dire si j'avais eu plus de temps. Voilà. L'analyse du temps dans le livre 11 est littérairement une digression. Et il faut absolument lire et méditer les pages d'Henri René Maroux dans son grand livre « Saint-Augustin et la fin de la culture antique » dans la deuxième édition, hein, et notamment son chapitre intitulé « Reductio artium ad philosophiam de exercitatio animi ». Maroux, dans la première édition de ce livre, avait osé un jugement, Saint-Augustin compose mal. Et il s'est livré à une rétractatio qui lui a donné l'occasion d'un développement extrêmement brillant sur les principes de composition qui ne sont pas du tout les nôtres et qui relèvent au fond de ce qu'on appellerait un exercice spirituel par écrit, une exercitatio animi. Et l'idée qui a été tirée de cela par Gulvenmadec avec beaucoup de pertinence est que le caractère aporétique de l'analyse du temps sur lequel Paul Ricoeur a beaucoup insisté, ce caractère aporétique a quelque chose de technique, a quelque chose de spirituel, de méditatif, et il s'agit pour Augustin écrivain et pour son lecteur de méditer la différence qu'il y a entre la temporalité humaine et l'éternité de Dieu. Et une fois qu'on a vu ça, on a beaucoup plus de facilité à replacer l'ensemble de la digression dans l'ensemble des trois livres 11, 12, 13, et notamment dans leur horizon exégétique, hein, qui est celui d'une exégèse priante, en quelque sorte, centrée sur la différence entre la temporalité humaine et l'éternité de Dieu. Alors, les deux autres points, mais que je vais simplement indiquer en vous renvoyant, d'une part, au travail de Gerard O'Daly. Hein, c'est l'article intitulé « Time as distantio » l'exégèse augustinienne de Philippiens 3, 12, 14. Hein, c'est le premier point. Et deuxièmement, en renvoyant globalement à différentes analyses de Gulvenmadec, à titre d'exemple, je vous ai donné l'article Augustin dans le dictionnaire des philosophes antiques et Saint-Augustin et la philosophie, note critique, paru en 1996. Les deux idées sur lesquelles je voudrais terminer sont les suivantes. Premièrement, Gérard O'Daly a mis en lumière l'extrême importance d'un texte que je vais quand même lire, qui est dans votre exemplier, et qui est le chapitre 29-39, qui mériterait évidemment des heures de commentaires, mais qui se trouve être un travail à la fois théologique et littéraire sur un passage de la lettre aux Philippiens. Et pour résumer les choses, je dirais que la clé de l'interprétation du livre 11 est dans l'écriture littéraire d'Augustin qui tisse en quelque sorte les références philosophiques et la référence paulinienne. Hein. Cette espèce de mélange entre les deux univers, entre les deux références, se fait au fil de l'écriture. Alors ce texte mérite d'être lu même rapidement, mais puisque ta miséricorde est meilleure que les vies, voici que ma vie est une distension et que ta droite m'a recueilli dans mon Seigneur, le Fils de l'homme. Médiateur entre toi qui es un et nous qui vivons multiples dans le multiple à travers le multiple, afin que par lui je saisisse le prix, lui en qui j'ai déjà été saisi, et que, abandonnant les jours du vieil homme, je me rassemble en suivant l'un. Ainsi, oubliant le passé, tourné non pas vers les choses futures et transitoires, mais vers celles qui sont en avant, et vers lesquelles je suis non pas distendu mais tendu, je poursuis, dans un effort non pas de distension mais d'intention, mon chemin vers la palme à laquelle je suis appelé là-haut, pour y entendre la voix de la louange et contempler tes délices qui ne viennent ni ne passent. Alors, Odélie a mis le doigt sur le fait que distentio, distenditur, dilaniatur, on a tout un ensemble de termes qui décrivent en quelque sorte spirituellement, existentiellement, la misère de la dispersion de l'âme humaine. Et cette expérience se greffe en quelque sorte sur la définition proprement philosophique du temps comme distentio animi. Alors, l'article pêche parce qu'il veut étendre cette signification pathétique en quelque sorte à l'ensemble des occurrences de distentio dans le livre 11 des Confessions, ce qui n'est pas du tout utile, mais il a évidemment mis le doigt sur l'importance de la référence paulinienne, et on pourrait dire que cette référence paulinienne se conjugue avec une inspiration philosophique probablement d'origine néoplatonicienne. Alors le deuxième point sur lequel je vais insister, c'est évidemment le caractère central du grand texte du chapitre 38, hein, 28-38, qui est l'analyse du chant. Et à plusieurs reprises, aussi bien dans ses livres, articles, que dans des comptes rendus du bulletin augustinien, Gulbenmadec y est revenu en montrant que l'analyse phénoménologique de l'expression de la profération d'un chant est véritablement le cœur et la vérité de l'analyse augustinienne. Et Paul Ricoeur dit que ce texte est véritablement le joyau du livre 11. Alors je vais quand même le relire avant de me taire. « Je me prépare à chanter un chant que je connais. Avant que je ne commence, mon attente se tend vers l'ensemble de ce chant. Mais quand j'ai commencé, à mesure que les éléments prélevés de mon attente deviennent du passé, ma mémoire se tend vers eux à son tour, et les forces vives de mon activité sont distendues vers la mémoire à cause de ce que j'ai dit et vers l'attente à cause de ce que je vais dire. Néanmoins, mon attention est là, présente, et c'est par elle que transite ce qui était futur pour devenir passé. Plus cette action avance, plus s'abrège l'attente et s'allonge la mémoire, jusqu'à ce que l'attente tout entière soit épuisée, quand l'action tout entière est finie et a passé dans la mémoire. Ce qui se produit pour le chant tout entier se produit pour chacune de ses parties et pour chacune de ses syllabes. Cela se produit pour une action plus ample, dont ce chant n'est peut-être qu'une petite partie. Cela se produit pour la vie entière de l'homme, dont les parties sont toutes les actions de l'homme. Cela se produit pour la série entière des siècles vécus par les enfants des hommes, dont les parties sont toutes les vies des hommes. On a donc l'analyse d'une expérience qui permet à la fois une régression vers le plus petit, vers la syllabe, vers le plus grand, la vie entière de l'homme et le temps de l'histoire. Et c'est sur cette structure que se greffe ensuite, immédiatement dans les lignes suivantes, la méditation sur le passage de la lettre aux Philippiens, avec littérairement un changement complet de tonalité, parce qu'à la tranquille sérénité de ce paragraphe 38 succède, n'est-ce pas, l'invocation à Dieu et le tissage entre saint Paul et des citations de psaumes dans le chapitre 39, avec une inversion, c'est-à-dire qu'à la mémoire de la distension va se substituer l'oubli, et l'attente ne sera plus l'attente des réalités futures transitoires, futura et transitura, mais l'attente des choses qui sont devant moi, et aquae ante sum. Il y a une sorte de renversement vraiment spéculaire entre la structure de la distentio animi et l'expérience spirituelle qui est finalement la dynamique même de la foi et de l'espérance. Voilà. Bien, je m'arrête et je vous prie de m'excuser.